Dans toutes les séries et tous les dessins animés américains de notre enfance, il y a toujours un moment donné où arrive le marchand de glace. Pat Le Guen, est-ce que t'as une musique de marchand de glace ? Il n'a pas de musique de marchand de glace. Mais c'est pas grave, parce que le marchand de glace, en fait, il est juste à côté de nous, dans tous les sens du terme. Il est avec nous sur le plateau, et son petit stand est à côté de nos plateaux radio. Radio Campus Tour Orléans, Pulsar, Radio Résonance, Radioactive Studio Zef. C'est des glaces de Rome. Rome comme Romain ?
Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Les glaces de Rome, oui, c'est un petit jeu de mots entre Rome, l'Italie, pour les glaces à l'italienne, et puis Romain, mon prénom.
Ça tombait bien.
Ouais, on a cherché longtemps. Hein. Et voilà, donc c'est suite à un petit voyage en Italie, en fait, que l'idée est venue de m'installer pour faire des glaces artisanales, vraiment, tout maison. Voilà, c'est la différence entre les vraies glaces italiennes, on va dire qu'on se rapproche vraiment du produit italien.
Parce que c'est quoi, quand on a discuté, vu que tu es à côté de notre stand, on a l'occasion de se croiser, et à chaque fois tu as précisé glace à l'italienne. Alors
oui.
C'est quoi la spécificité des glaces à l'italienne ? Il y a plusieurs familles de glaces.
Ouais, alors tu vois les glaces boules artisanales classiques, et en fait ce qu'on appelle glace italienne, on ne devrait pas l'appeler comme ça, théoriquement on devrait l'appeler glace soft ou glace molle en français. C'est une glace qui sort des machines à moins 7 degrés et pas moins 18 comme une glace classique. Ce qui fait la texture, c'est le fait que tu fasses ton mix à glace avec incorporation d'air, et elle sort à moins 7 degrés, donc elle est souple et elle se déguste tout de suite évidemment. C'est pas fait pour être conservé pendant en bac par exemple chez toi, quoi. C'est pas le but. Voilà, c'est la différence entre une glace soft et une glace, on va dire, en boule, où là par contre tu vas avoir une incorporation d'œuf en plus par exemple. Et puis c'est fait dans un laboratoire, etc. Moi, ça me permet de pouvoir faire tout sur place.
Et donc, les parfums, j'imagine que tu proposes, comme tu dis que c'est fait maison, ça veut dire que c'est pas avec des choses complètement farfelues, artificielles. Donc, tu dois chercher des goûts, tu es obligé de travailler avec des produits spécifiques. Comment ça se passe, le choix ?
Du coup, j'ai deux. Enfin, ça va dépendre du positionnement. Par exemple, ici, je suis sur un festival, il faut que je vise quand même tout public. Donc, je vais avoir des parfums classiques, vanille, fraise, chocolat, framboise, quand tout veut bien marcher. Mais voilà, pour que ça puisse attirer tout le public, en sachant que tu fais 60% de tes ventes, c'est de la vanille, hein, clairement. Après, dans un deuxième temps, moi, je crée des glaces aussi personnelles. Je peux faire des glaces salées, par exemple. Donc, ça surprend toujours un petit peu. Je suis du Mans, je suis en cohésion avec un traiteur un peu haut de gamme, et du coup, par exemple, je fais des glaces au foie gras pour lui, des glaces aux chèvres, glaces citron, sauge, des choses comme ça, en fait, qui permet de sortir un peu du lot sur des cocktails.
Et pour faire le métier de glacier, il y a des écoles, ça s'apprend. J'imagine, t'as parlé de l'Italie, donc est-ce que l'Italie, par exemple, est un des berceaux de cette culture gastronomique-là ?
Oui, concrètement, l'Italie est très très connue, mais vraiment archi connue pour les glaces. Là-bas, vous en trouvez à tous les coins de rue, et voilà, c'est vraiment un très très beau niveau de glace, quoi. Tu prends une claque quand tu vas là-bas en termes de glace. Après, pour être artisan glacier, on va dire spécifiquement pour faire notamment des boules, comme je disais, il faut des diplômes, ça c'est sûr. Moi j'ai un diplôme de cuisine, voilà, j'ai une licence professionnelle, mais c'est là où la loi est pas bonne, je trouve, c'est que je suis pas obligé d'avoir un diplôme spécifique de glacier pour m'installer en tant que glacier ambulant en glace à l'italienne spécifique. C'est en gros, c'est la machine qui fabrique, et moi je vais juste faire le mix liquide, juste, c'est l'essentiel, mais c'est la machine qui va faire, quoi.
Ouais, la différence c'est que toi, la machine, ce que tu mets dedans, tu sais ce que tu as mis dedans,
oui.
tu l'as préparé avec la personne qui va, comme tu disais, peut-être faisait avant des gaufres ou des frites et qui peut faire de la glace idéale parce qu'elle a la bonne machine qui va bien.
Ouais, ça, alors ça joue, le matériel est vachement important. Par exemple, tu vois, moi je suis sur des machines françaises mais avec matériel à l'intérieur italien, c'est des tops au niveau national, international. Ça permet un brassage de la glace qui est quand même différent que si tu achètes par exemple une machine chinoise. Donc en fait, tu mets un budget quand même dans tes machines pour que tu aies une qualité de glace derrière top.
Et c'est assez évident, on est sur un festival, en plus il fait très chaud, donc c'est vrai qu'une glace, c'est, c'est très alléchant tout de suite. Comment on gère l'ensemble d'une année parce qu'il y a, on imagine qu'il y a des saisons, automne, hiver, où la consommation, on a moins envie de manger des glaces.
Ouais.
Que fait un glacier durant cette saison-là ?
Alors, c'est une très bonne question. Moi, je me suis installé le 1er mars cette année. Donc, c'est un pari pour moi, dans le sens où le but, c'est de travailler en effectif, comme ici, sur des foires, des festivals ou des fêtes médiévales. Je fais beaucoup sur 6 mois de l'année. Et les 6 mois d'après, un peu saisonnier en fait, si tu veux. Et les 6 mois d'après, être en off chez moi. Alors, ça ne veut pas dire que je ne fais rien, mais je vais travailler par contre sur les dossiers. Par exemple, pour intégrer sur un festival comme ça, c'est traité depuis janvier dernier, par exemple. Ou là où on est censé, entre guillemets, ne rien faire. Mais c'est des envois de dossiers, c'est. Voilà. Préparation.
Et puis j'aurais une dernière question. Est-ce qu'il y a une histoire de la glace alitaine ? Depuis quand ça existe ? Comment ça a été ? Est-ce qu'on sait comment ça a été inventé ? Depuis quand c'est consommé ?
Tu veux me piéger pour la dernière question, en fait.
Non, juste parce que je vois que t'as une passion vraiment pour la glace, oui, à l'italienne, et c'est hyper intéressant, c'est de connaître l'histoire d'où vient ce produit.
Alors, la glace italienne en pur, comme tu vois les machines, par exemple, ça, c'est un dérivé qui a été fait pour reproduire les vraies glaces artisanales italiennes. Là-bas, c'est en tapant, c'est-à-dire qu'ils ont des cuves et ils tapent, ils incorporent l'air en tapant à la main. D'ailleurs, si tu y vas, si tu as pas déjà été, voilà. Et les machines ont vocation à reproduire cette texture en fait de glace. Donc la machine en elle-même, je ne peux pas te dire depuis quand, mais la glace, par contre, ça existe depuis énormément de temps, quoi. On trouve des traces, je te dirais peut-être une bêtise, mais il me semble qu'on trouve des traces quand même au Moyen-Âge. Voilà, les premières glaces avec des... Voilà. Je sais pas... Voilà.
Alors moi, si mon micro est ouvert, j'ai une autre question... Parce que là, donc, toi, tu es sur des glaces artisanales, mais oui, évidemment, des glaces artisanales, on en trouve pléthore dans toutes les rues, dans toutes les rues piétonnes, il y a de la glace artisanale. Et donc, j'imagine que souvent, la glace italienne qu'on trouve, c'est du prémix.
Oui.
C'est quoi ton conseil ? Qu'est-ce qui doit mettre la puce à l'oreille ou à l'œil ou au goût pour savoir si c'est une vraie ou une fausse glace artisanale ? Parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait des obligations légales là aussi.
Alors, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis en statut artisan pour rentrer dans la technique. Et donc, je peux tout à fait dire que je fais de la glace artisanale, même si je fais des produits, par exemple, tout près, ce qui n'est pas mon cas. Donc, ça, déjà, il y a un problème au niveau de la loi de ce côté-là. Il y a un gros problème. Ce qui fait que les gens se perdent beaucoup. Pour trouver une bonne glace, par exemple, on va prendre le produit phare, la glace vanille. Déjà, la vanille, c'est pas jaune. Déjà, c'est un gros indice. Une glace artisanale, elle va pas être en termes de foisonnement et en termes de texture exactement comme moi je vais faire ma glace ici. Donc par exemple, ma glace, elle est blanche ici, avec des grains de vanille dedans. Et après, tu vas retrouver aussi en deuxième point le goût. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai moins de 8% de sucre par glace. Alors le sucre, c'est exhausteur de goût. En général, il y a pléthore de sucre dans une glace, ce qui permet de masquer le goût, et puis ça coûte pas cher. Donc c'est aussi un deuxième indice, même si c'est pas forcément visuel, mais au goût. Si vous avez beaucoup de sucre dans votre bouche et pas beaucoup de saveur derrière, c'est que voilà, c'est pas forcément fait maison, quoi. Clairement pas.
Et peut-être les parfums genre glace Schtroumpf.
Ouais, bah alors comment te dire. Il y a beaucoup de colorants, évidemment, c'est bourré de produits avec des E, etc. Évidemment, c'est prohibé, hein, si vous voulez une bonne santé pour vos enfants, parce que c'est visé pour les enfants, hein, on est bien d'accord. Moi, je milite contre ça, je pense que vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous allez voir, si vous venez goûter une glace, vous verrez que le but aussi de ma cabane en remorque, en bois, était aussi vocation à dire, voilà, ici, on fait du produit maison artisanale, on n'est pas, rose bonbon, rose fuchsia, tu vois, qui attire l'œil, et c'est pas forcément... Alors, c'est très bien au niveau marketing, mais non, en fait, faut pas. Voilà.
Et à propos de marketing, comme tu expliquais tout à l'heure, tu t'es installé cette année. Est-ce que, oui, tu voudrais revenir un peu sur ton parcours d'entrepreneur ? Parce que j'imagine que c'est quand même beaucoup d'argent à investir. Tu expliquais que les machines, ça a un certain coût. Donc, est-ce, oui, que tu as été accompagné là-dedans ? Parce que je pense là sur le festival, par exemple, il y a Pépite, donc c'est les étudiants entrepreneurs. Mais à l'échelle de la région, il y a aussi des structures qui accompagnent ce genre de projet. Est-ce que toi, ça a été ton cas ?
Alors, pour ma petite histoire, en fait, si je remonte 3 ans en arrière, je devais reprendre un traiteur événementiel haut de gamme, si tu veux. Et le Covid est arrivé, ça s'est bloqué, et du coup, j'ai dû repartir en salariat et puis refonder mon projet. Et voyage en Italie, comme je te disais, ce qui m'a permis de me lancer dans les glaces italiennes après, en fait. Ça me plaisait vraiment. Après, pour revenir à ce que tu me disais, j'ai zappé un peu, excuse-moi, ce que tu me disais concrètement.
Comment a été accompagné ton projet ?
Ah oui,
parce que c'est un budget, un investissement. Du coup, comment tu convaincs la banque ?
Eh bien, j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin de convaincre la banque parce que, en gros, j'ai mis toutes mes économies au lieu de m'acheter une très belle voiture, par exemple. Voilà, je me suis acheté une très belle entreprise. J'ai la chance aujourd'hui d'être indépendant en termes de finances, c'est-à-dire que je suis auto-entrepreneur en statut. Alors, c'est un très bon statut, ça peut être dangereux aussi si tu n'es pas carré, si tu ne fais pas ta compta carré. Donc moi, j'ai plutôt un cursus aussi technique au-delà de la cuisine. Donc voilà, j'ai des bonnes bases pour pouvoir me gérer tout seul. Le but, c'est que dans 2 ans, normalement, je passe en entreprise-société. Ça va dépendre du chiffre d'affaires, évidemment, etc. Bon, sans rentrer dans tout ce qui est charge, etc. Mais c'est un bon statut pour démarrer. Et en termes d'aide, bah, du coup, je ne suis pas forcément rentré dans le créneau des aides parce que j'ai plus de 25 ans, par exemple. Mais quand j'ai commencé à vouloir m'installer à mon compte en tant que traiteur événementiel, là, par contre, j'ai été suivi par le département où j'habite, en Sarthe, justement en accompagnement de 2 ans. Donc avec les formations, l'accompagnement au management, l'accompagnement à direction d'entreprise. Donc j'ai bénéficié aussi de ça.
Je crois que c'est important de rappeler que même si on a un projet autour du bien manger, y a aussi tout le pendant administratif qui n'est pas évident.
Tout
et peut-être qu'il faut en être conscient quand on veut se lancer.
C'est même pour moi la première cause d'échec de personnes qui vont même aller, je vais aller plus loin, le statut d'entrepreneur, comme je disais, c'est un piège pour moi, dans le sens où les gens ils pensent que c'est facile, tu t'installes, on n'a pas grand-chose à faire et basta. Sauf qu'en fait, c'est pas de là où réside ton entreprise. Effectivement, il faut être armé. Enfin, moi, j'ai voulu vraiment m'armer avant, même rien que la compta, avoir des notions de compta, des notions plus, hein, on est bien d'accord. Mais par exemple, les impôts, moi, m'aide actuellement, en tant qu'auto-entrepreneur, il y a des pôles pour aider les jeunes auto-entrepreneurs, s'ils se sont rendus compte du coup que des fois, les gens ne faisaient pas attention, qu'ils se faisaient rattraper, et puis voilà. Et l'URSSAF aussi aide beaucoup pour l'accompagnement. Donc là-dessus, il suffit de demander, de trouver les bonnes personnes, mais tu as des accompagnements qui sont à dispo. Voilà.
Bien, merci.
Merci à vous, en tout cas.
Merci.
Merci. Bonne journée.
Toucan qui arrive.
Et voilà. Parfait, on est raccord. Oh.